Tildine, histoire d'une méchante petite princesse, par Marie, reine de Roumanie, troisième cassette, première face, page 66. Le petit homme se mit à danser et à rire en se tenant les côtes. Il riait tant qu'on eût pu croire qu'il allait éclater. Sa barbe grise balayait les fleurs et ses petites jambes maigres étaient si souples qu'il les passait souvent par-dessus sa tête. Il s'agitait comme un lambeau de brouillard gris chassé par le vent. Kildine s'exaspérait, mais elle n'était pas princesse pour rien. Levant la tête, son nez très haut, elle passa dédaigneusement à côté de ce trouble-fête, allant tout droit à la reine Flutanda et lui disant de sa plus douce voix. « Chère reine, votre jardin est ravissant. Vos fleurs sont les plus exquises que j'ai jamais vues. Elles sont plus belles encore que celles du jardin du roi mon père. Car, bien que mes vêtements soient plutôt râpés, je suis une princesse. Je viens de faire un long voyage, aussi ma robe est un peu défraîchie. Mais ne vous en déplaise, chère reine, votre chambellan est très impertinent. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais mieux m'en aller dans une autre partie du jardin. » La reine regarda l'enfant avec bonté et, agitant doucement les ailes, se leva avec lenteur de son nid. Aussitôt, tous les autres cygnes émergèrent des fleurs jaunes et Kildine, au milieu d'une masse mouvante de plumes immaculées, se vit entraînée vers le bord de l'eau. Quand on atteignit le lac, au moment de s'embarquer, un des grands cygnes vint s'offrir à l'enfant qui prit place sur son dos. Un mince cordon de soie lui servait de bride. À ses côtés voguait, toute blanche, Flutanda, au col souple et gracieux, sa couronne brillant sur sa tête comme une étoile. Sur l'eau chatoyante, les cygnes glissaient à travers les rangées de lys, et derrière eux nageaient d'autres cygnes, longue escorte éblouissante, cours digne d'une reine. Kildine reposait sur un siège moelleux au milieu des plumes, et les nombreuses fleurs s'inclinaient sur son passage. Les ondes murmurantes agitaient leurs longues tiges flexibles, aucune n'était immobile, et toutes se penchaient pour rendre hommage à leur souveraine. Kildine oubliait que ses vêtements étaient sans éclat. Elle portait très haut la tête et, ne pouvant se voir, se figurait être dignement parée pour ce voyage parmi des beautés sans pareilles. Elle saluait à droite et à gauche avec une parfaite dignité, comme si toutes les fleurs inclinées eussent été la foule de la capitale de son père. De fait, Kildine commençait à se sentir très importante lorsque tout près d'elle, une petite voix stridente la tira soudain de son rêve.
« Vous n'avez pas besoin de vous donner de tels airs, »
dit son agresseur.
« Vous semblez un grain de poussière sur un nuage blanc du bon Dieu. Ne soyez donc pas si hautaine et si fière. »
Kildine, abaissant les yeux, vit, naviguant à ses côtés sur un gros canard, l'ombre détestée et grimaçante du petit homme gris. « Je vous croyais rester en arrière, » dit-elle.
« Je ne reste jamais en arrière. »«
Qui prétendez-vous être ici ?» demanda la princesse avec hauteur.
« Je ne le prétends pas, je suis. »«
Quoi ?»«
Quelqu'un qui dit la vérité. »«
Est-ce que la vérité est toujours aussi désagréable ?»«
Ça dépend. » »«
De quoi ?»
Ça dépend de celui qui l'écoute.
Vous dites des bêtises, dit Kildine.
Que non, mais c'est chose bien connue que les princes n'aiment pas la vérité. Ils l'entendent si rarement. Lorsqu'ils l'entendent, elle leur paraît comme une personne qui aurait oublié de s'habiller. Vous croyez être quelque chose de très spécial parce que vous êtes une princesse et que vous avez Son Altesse Royale devant votre nom. Mais vous n'y avez aucun mérite, et cela ne vous a pas empêché d'être une petite fille si méchante qu'on a dû vous enfermer dans une tour sous la garde de 21 aigles jusqu'à ce que vous ayez appris à vous bien conduire. Vous croyez que le monde entier a été créé pour votre bon plaisir, pour que vous puissiez donner des ordres à tort et à travers et tourmenter votre entourage. Mais les aigles vous ont dressé. Ils vous ont appris une autre chanson.
Un moment, Kildine garda le silence. Ses lèvres rouges frémissaient. Elle sentait une brûlure sous ses paupières et sa gorge se serrait. Le beau lac lui parut moins bleu, moins beau les nénuphars. Elle en oublia presque qu'elle volait sur de douces plumes blanches, la fée Flutanda à ses côtés, et ne trouvant rien de mieux, dit « J'aime beaucoup les aigles. »
« C'est la seule chose sensée que vous ayez exprimée jusqu'à présent, »
glapit le petit homme.
« Nous allons bientôt commencer à nous entendre. Si vous êtes sage, je vais demander à la reine de vous montrer ses trésors. »
Tout affairé, le petit gnome dirigea son canard du côté de Flutanda, qui pencha vers lui son joli cou et parut l'écouter. Kildine ne pouvait pas comprendre comment une aussi belle créature pouvait supporter auprès d'elle un petit homme tellement grossier et vilain. Mais il y avait encore bien des choses que Kildine ne comprenait pas. Un long chuchotement s'engagea entre le cygne et l'ombre agressive, mais Kildine n'essaya pas d'écouter. Elle contemplait l'extraordinaire beauté du lieu. Les plantes du lac avaient disparu. Les cygnes voguaient maintenant sur des ondes si vertes, si transparentes, qu'elles semblaient de cristal. En abaissant son regard, Kildine pouvait voir sous l'eau tout un monde nouveau, un monde mystérieux d'attirante splendeur. Il y avait des fleurs inconnues, de petits sentiers secrets. On croyait apercevoir des palais submergés, des cathédrales de couleurs féeriques qui paraissaient taillées dans des pierres précieuses. D'énormes buissons de corail, éventails de délicates dentelles roses, poussaient là, et à travers leurs branches nageaient des poissons argentés, glissant çà et là comme des raies de lumière. En levant les yeux, elle voyait de chaque côté du lac des arbres pareils à des saules pleureurs, traînant leurs branches à la surface de l'eau. En guise de feuilles, ils portaient des touffes de fleurs blanches parfumées, ressemblant à du givre après une nuit brumeuse. Ayant atteint le rivage le plus éloigné, Kildine marcha entre Flutanda et le nain fantôme vers une grotte qui s'ouvrait devant ses regards émerveillés comme la porte d'un paradis. L'enfant y pénétra et soudain ses pieds s'enfoncèrent dans un tapis de primes vertes qui couvrait tout le sol. Puis ce furent, serrées l'une contre l'autre, des violettes odorantes d'un violet intense. Des parfums exquis emplissaient ce lieu. Kildine marchait aussi légèrement que possible, de crainte d'écraser la délicate splendeur de ce parterre fleuri qui semblait baiser ses pieds au passage. Bientôt, elle atteignit une caverne ronde et voûtée, d'une blancheur et d'un éclat de neige cristallisé. Le sol était émaillé d'une masse de gentiane bleu saphir, plus bleu que tout ce que Kildine n'avait jamais vu. Au centre, une guirlande de roses d'un blanc laiteux formait un nid accueillant. Avec une incomparable dignité, Flutanda y monta, s'assit au milieu, et toutes les roses se pressèrent autour d'elle, comme si chaque fleur était fière d'entourer sa reine. Les autres cygnes, qui avaient eu suivi en un long cortège, formèrent un grand cercle le long des parois de la grotte. La princesse resta seule devant la reine, le nain, son bourreau, à côté d'elle. Flutanda plongea son bec dans les roses et en tira une clé d'or. D'un mouvement souple et tendant son long cou, elle laissa tomber la clé dans la main du nain. Celui-ci fit signe à Kildine de le suivre et s'éloigna en gambadant parmi les fleurs comme un esprit malin lâché en liberté. Kildine n'avait pas envie de le suivre. Elle le fit pourtant, sentant qu'il le fallait. Mais son cœur était plein de rancune contre ce grossier petit homme à la langue si acérée. Il ouvrit une porte étroite, dissimulée dans l'un des murs de la crypte. prise de curiosité, Kildine y glissa un coup d'œil furtif. Dans les ténèbres, elle n'aperçut d'abord que des étincelles lumineuses brillant sur le sol comme des étoiles. Le petit homme lui fit signe de venir plus près de lui. Oubliant sa colère, elle le rejoignit et regarda autour d'elle. Elle se rendit bientôt compte qu'elle se trouvait dans une seconde grotte, plus petite, éclairée de l'étrange lueur bleue des nuits d'Orient. Par terre, il y avait d'énormes coquilles de nacre, pleines de diamants si gros et si étincelants qu'ils semblaient de petites lumières d'où sortaient des rayons allongés comme ceux du soleil. « Puis-je y toucher ?» murmura Kildine. « Oui, vous le pouvez, » répondit le lutin. Kildine se baissa et prit dans ses doigts tremblants les gemmes merveilleuses. L'enfant et le gnome, oublieux un moment de leur antipathie réciproque, se penchèrent sur les trésors lumineux et leurs deux visages furent inondés de clarté. Kildine était accroupie, son ennemi si près d'elle que son bonnet pointu lui chatouillait presque le nez. « J'en ai encore d'autres à vous montrer, » chuchota le petit homme avec vivacité. « Remettez ces diamants à leur place. Car ceci est un monde de mystère. Et venez. » Dans sa hâte, il saisit la main de Kildine et son contact était humide et doux comme le brouillard. À l'aide de sa grande clé, il ouvrit une autre porte et ils passèrent dans une petite salle ronde, tout en or. Du mur et des plafonds pendaient de longs chapelets d'émeraude, tels d'énormes gouttes d'eau verte pétrifiées. La princesse courait parmi ses trésors et les palpait avec ravissement. Sitôt que l'enfant les caressait, de mystérieuses ondulations les rendaient pareils à de longs serpents verts, et tandis qu'ils oscillaient doucement, un feu étrange en émanait. « Avançons !» murmura Kildine. Elle ne se sentait pas tout à fait à son aise. Avec un rire étouffé, le nain ouvrit une autre porte donnant sur une nouvelle salle. Celle-ci était toute en marbre noir, éclairée par une douce lumière qui tombait du plafond. Autour des parois étaient alignées des tables étroites. Sur les tables, d'innombrables coupes de cristal semblaient pleines du jus vermeil des framboises. Mais en se haussant sur la pointe des pieds, Kildine s'aperçut qu'elle contenait une prodigieuse collection de rubis énormes et brillants, une vraie joie pour les yeux. Ses petits doigts y plongèrent, les pierres roulèrent sur ses paumes comme des groseilles de dimensions gigantesques. Kildine, haletante de plaisir, eût souhaité d'en emporter quelques-unes, car elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. « Non, non !» cria le lutin, lisant dans ses pensées. « Non, les rubis ne sont pas pour les petites filles, surtout pour des petites filles qui ont besoin de 21 aigles pour les tenir en respect. Venez vite, nous avons autre chose à voir !» Kildine avait envie de lui lancer une réponse insolente, mais n'en eut pas le temps. Le petit homme l'entraînait vers une autre porte, et cette fois ils pénétrèrent dans une longue galerie, tout en pierre. Dans le mur, de chaque côté, de petites niches étaient creusées, pareilles à des autels, et dans chacune s'élevait un monceau scintillant de pierres précieuses. Kildine marchait comme dans un songe, courait d'un côté à l'autre, regardait, touchait, palpait tout, avec des exclamations de joie. Que tout cela était merveilleux! Il y avait là, brillant de couleurs impossibles à imaginer, même en rêve, des opales, des turquoises, des pierres de lune et de soleil, des améthystes, des topazes, des sardoines, des chrysoprases, des agates, des onyx, des saphirs, des aigues marines, des béryls et des chalcédoines. La galerie s'étendait devant elle, pleine de promesses, révélant à chaque pas des trésors nouveaux, jusqu'à ce qu'enfin le petit homme ouvrit encore une porte, amenant ainsi Kildine dans une spacieuse salle de marbre d'un gris de nuages. Au centre se trouvait un bassin carré, dont l'eau était transparente comme celle d'un glacier, et à sa joie, Kildine vit Flutanda à la surface, sa couronne sur la tête, accompagnée de 20 de ses plus belles suivantes. Mais ce n'était pas tout. Rangés plus sombres autour du bassin limpide, se tenaient ses amis les aigles, car à présent, ils étaient devenus les amis de Kildine. Avec un petit cri de joie, elle courut à l'oiseau roi, qui leva sa noble tête et la regarda de ses yeux perçants. L'enfant jeta les bras autour de son cou, puis, avec un grand intérêt, se mit à suivre les mouvements de Flutanda. La reine, plus blanche que neige, glissait au fil de l'onde, plongeait dans l'eau son long col et l'en retirait, portant chaque fois dans son bec une perle ronde d'un orient admirable. Nageant alors jusqu'au bord du bassin, elle laissait tomber la perle dans une coupe de jade déjà à moitié pleine, semblable à une fleur de lotus féerique aux pétales incurvés. Ses compagnons se livraient à la même occupation. La coupe de jade s'emplissait peu à peu d'un inestimable trésor. Fasciné, Kildine regardait Flutanda voguer au gré des flots. Elle demeurait surprise de voir que la petite couronne ne tombait pas de sa tête. Y avait-elle donc poussé ? Le lutin d'ombre était assis auprès de la coupe. Ses pieds pendaient dans l'eau qu'il frappait à petits coups, faisant jaillir dans l'air des gouttelettes diamantées. Un charme mystérieux remplissait l'espace. Ce n'était ni le jour ni la nuit. L'éclairage était doux et vague. La vaste salle avait la couleur des ailes des pigeons gris ou des brumes estivales. Kildine croyait rêver. Prise de sommeil, elle se blottit tout contre le grand aigle. Les mouvements silencieux et ondoyants des cygnes lui faisaient l'effet du balancement d'un invisible berceau. Ses yeux commençaient à se fermer. Elle ne savait plus très bien où elle était. À ce moment, il lui parut que la reine Flutanda nageait de son côté et posait une jolie perle blanche dans sa main. Puis elle crut entendre un rire strident qui ne pouvait sortir que du gosier de l'affreux petit homme, et elle eut la vision nébuleuse de ses gambades sur le dallage de marbre, de ses jambes, de ses bras tournant en cercle comme les ailes d'un minuscule moulin à vent. Puis plus rien. Kildine s'était profondément endormie. Comment la princesse revint au sommet de sa tour, elle n'en sut jamais rien. Vaguement, elle se revit flottant au milieu des nuages. Le jour mourait par degrés dans le ciel. En s'éveillant, il lui sembla voguer là-haut parmi les étoiles qui la fixaient de leurs yeux scintillants. Mais voilà qu'elle se retrouvait une fois de plus dans sa prison, sa main étreignant une grosse perle ronde, la perle que Flutanda lui avait donnée, tandis que l'affreux petit homme se tordait de rire. Et la perle lui prouvait que toute son aventure n'avait pas été un songe. Mais à présent, j'ai quelque chose d'autre à vous raconter. Chapitre 6. Le roi était assis près de la fenêtre, un gros livre sur ses genoux. La journée était chaude. Les pensées de sa majesté erraient lointaines. Il ne pouvait prendre aucun intérêt aux sages paroles qu'il lisait. Les soucis de l'État pesaient lourdement sur sa royale tête blanche. À maintes reprises, il soupira tristement. Et croisant ses mains sur les pages du livre, regarda dans le jardin. Les oiseaux pépiaient, racontant leurs petites histoires. Mais dans tous les sons que percevait le roi, il n'entendait que ce nom aimé. Kildine. Sur la terrasse, le clapotis de la fontaine murmurait « Kildine ». Et quand la douce brise de l'été agitait les feuilles des arbres, elles aussi semblaient répondre « Kildine, Kildine, Kildine ». Le vieillard se leva. Le lourd volume tomba à terre, froissant sous son poids les feuillets précieux. Le roi sortit sur la terrasse. Le soleil dardait ses rayons sur sa tête, éclairant son visage triste et vieilli, révélant chaque ride, chaque trait creusé par le souci. Lentement, il descendit les marches de marbre qui conduisaient au jardin. Son manteau de pourpre balayant avec mollesse chacune des marches, traînant derrière lui comme un vieux courtisan lassé de sa charge quotidienne. De toutes parts, dans les multiples voix de la nature, le pauvre père croyait entendre résonner le nom de Kildine. Depuis quelques semaines, les souverains éprouvaient un désir presque intolérable de revoir leur fille. Mais regardant cette faiblesse comme indigne de leur rang, le roi et la reine s'évitaient afin de ne point se révéler leur tourment. La reine Gunnara restait assise parmi ses dames d'honneur, filant ainsi qu'il convient à toute vraie reine. Une à une, les larmes tombaient de ses yeux en si grand nombre qu'elles formaient un mince ruisseau glissant sur le parquet vers la porte ouverte comme une couleuvre d'argent. La reine le suivait des yeux. Son seul désir eût été que la petite rivière s'allongeât tant et tant qu'elle atteignît enfin les pieds de Kildine, la méchante Kildine, sa fille unique, si loin d'elle. Ne trouvant pas de consolation au jardin, le roi avait regagné ses appartements. Le livre savant était toujours par terre, abandonné, froissé. Les affaires de l'État cherchaient en vain par leurs papiers dédaignés à attirer l'attention du vieux monarque. La plume avec laquelle tant de lois avaient été signées reposait patiemment sur la table dans l'attente d'un jour meilleur. Le roi, immobile dans son fauteuil, contemplait les nuages qui passaient dans le ciel quand soudain une grande ombre obscurcit la fenêtre. Avec un puissant battement d'ailes, un aigle immense se posa sur le rebord. Son corps oscilla une ou deux fois avant de se fixer, puis s'immobilisa autant que le roi lui-même, et les deux monarques se regardèrent en égaux, sans échanger une parole. Mais que tenait dans ses serres, ses griffes, le majestueux oiseau? Quelque chose de rond et de brillant, quelque chose qui scintillait au soleil d'un éclat aveuglant. Le vieux roi rêvait-il? Voyait-il juste? Était-ce bien là sa couronne? D'un pas chancelant, le pauvre père quitta sa chaise et s'approcha du visiteur inattendu. Ses doigts tremblaient en touchant le trésor perdu après lequel il avait si profondément soupiré. En vérité, c'était sa couronne, la couronne que Kildine lui avait volée par ce triste matin. Il y aurait bientôt une année. L'aigle desserra son étreinte. Accablé d'émotion, le roi reprit sa couronne, le cercle d'or symbolique sans lequel il s'était senti si amoindri. Le vieillard solitaire posa sur son front le trésor retrouvé, se redressa de toute sa taille et du coup grandit à la hauteur de la tâche qui lui incombait. Les plis fatigués de son manteau reprirent des lignes plus rigides. L'étoffe sembla pendre moins mollement. Et quand Sa Majesté se mit en marche afin d'appeler son épouse pour lui faire part de sa joie, le bruissement du velours sur le parquet était plein de son importance d'autrefois. Les hauts et les ha de la reine Gunnara remplirent la chambre d'un bruit joyeux. Les mains jointes, elle alla au-devant de l'aigle silencieux et la câbla de remerciements. Un flot de paroles jaillit de ses lèvres. Que de questions, que d'exclamations de joie. Quel besoin avide de savoir. Le nom de Kildine résonnait dans toutes ses phrases, comme l'appel du printemps. Comment pourrait-il la ramener? Était-elle bien portante, heureuse, sage, corrigée? Mais sa joie se transforma vite en crainte. Une angoisse mortelle envahit son âme. Était-elle malade, en danger, morte? Et levant les bras au ciel, la reine Gunnara se mit à pousser des lamentations aiguës. Elle faisait un tel vacarme que ses dames d'honneur accoururent en foule dans la chambre. Pareil à un troupeau d'oies, elles se massèrent autour d'elle, geignant, piaillant, jacassant, glapissant, ne comprenant pas la raison de tout ce bruit, mais chacune brûlant du désir de montrer sa sympathie et son zèle. Toutes ces vertuant à se dépasser l'une l'autre dans leurs manifestations d'amour et de dévouement. Elles poussaient de tels cris qu'aucune ne pouvait entendre ce que disaient les autres, et la reine, accablée de tant de zèle, fut bientôt près de s'évanouir. Le roi, déconcerté, regardait impuissant. Mais quand il vit que la reine allait s'évanouir, pris de panique, il agita sa sonnette, appela ses serviteurs à son aide, et alors la salle prit l'aspect d'un océan multicolore. sur le rebord de la fenêtre, l'aigle perché, immobile et silencieux, restait étonné de l'étrange folie qui s'était emparée de la cour. Il attendait avec patience le moment où le calme se rétablirait. On n'a jamais su comment le monarque des cimes, l'aigle, fit comprendre au roi des plaines, le roi, que l'enfant royal, régénéré, pouvait enfin être ramené de son exil sans aucun risque pour la dignité et la paix de la cour. D'une façon ou d'une autre, cette nouvelle fut annoncée et apparemment comprise, car un beau matin, Kildine, qui du haut de sa tour regardait sans aucun plaisir le paysage marécageux qu'elle n'avait que trop vu, découvrit tout à coup dans le lointain une ligne mouvante et bariolée qui cheminait vers elle à travers la plaine. D'abord, elle pensa que c'était un monstrueux serpent venant la dévorer. Son cœur battit bien fort, tout royal qu'il fût, et elle souhaita la présence des aigles qui certainement ne permettraient à aucune vilaine bête d'attaquer l'enfant confié à leur garde. Mais la ligne grossissait à vue d'œil. Kildine vit un cortège de cavaliers chevauchant en zigzag à travers les marais et choisissant avec soin leur chemin sur le terrain boueux. Alors, une grande agitation s'empara d'elle. Elle courut, dansa en rond autour de la terrasse, battit des mains, cria de plaisir. Elle esquissa même une culbute, semblable ainsi l'espace d'un moment à une grande fleur rouge renversée. Puis soudain, avec un petit mouvement de coquetterie, elle s'arrêta et essaya d'arranger ses vêtements chiffonnés, de lisser ses boucles emmêlées, de secouer la poussière de son manteau. Avec une moue désolée, elle considéra l'aspect misérable et râpé de ses atours, ses pieds nus, son manteau déchiré, sa robe tachée, fripée, déteinte. En vérité, elle devait avoir l'air d'une petite mendiante plutôt que d'une princesse royale. Est-ce que ses parents la reconnaîtraient ? Kildine ne doutait pas qu'ils ne fussent en tête du cortège. Ou la prendraient-ils pour une autre petite fille ? Oh, ce serait trop horrible ! À cette pensée, Kildine fut prête à pleurer. Mais il ne s'agissait pas d'avoir des yeux et un nez rouges en ce grand jour, et il fallait chasser toute pensée attristante. D'un mouvement vif, elle grimpa sur l'un des sièges et de là se hissa sur le mur, dans cette position vertigineuse et risquée dont elle avait pris l'habitude. On distinguait parfaitement les différents cavaliers. Elle commença à les compter, mais elle n'était pas forte en calcul, et elle ne savait pas compter plus loin que 10. Elle ne pouvait pas encore reconnaître leur visage, mais sur la tête de l'un d'entre eux, quelque chose brillait d'un éclat merveilleux. Qu'était-ce donc ? Oh, la couronne de son père ! Dieu merci, il l'avait retrouvée ! Et qu'il digne de battre des mains ! C'était trop beau pour être vrai. De tous ses méfaits, cet acte était celui qui avait pesé le plus lourdement sur sa conscience. Elle avait toujours été hantée par la vision de la triste tête blanche, dépouillée de l'ornement qui faisait pâlir les plus précieux joyaux de la cour et la distinguait de son noble entourage. À côté du roi brillait encore autre chose. Donc sa mère portait aussi sa couronne, l'insigne suprême de la royauté, afin d'être dignement parée pour ce jour d'action de grâce. Fin de la première piste de la troisième cassette, page 82. Kildine, histoire d'une méchante petite princesse, par Marie, reine de Roumanie.